On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Croquant en pâte d'Aveline.
Maintenant, on se doit de faire des beaux gâteaux. C'est devenu quelque chose de primordial si on veut faire partie de cette haute pâtisserie.
Charlotte.
Comme le dit très bien Carême, le dessert, c'est l'ornementation de la cuisine.
La pâtisserie française est unique dans le monde parce qu'elle s'appuie d'abord sur un terroir, des produits, des matières premières, des saveurs, des fruits, le beurre français, les crèmes merveilleuses.
Gâteau de mille feuilles à la moderne, croque en bouche. Antonin Carême, le pâtissier royal.
Alors aujourd'hui, on reçoit les plus grands pâtissiers du monde, donc je compte sur vous.
Michel !
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Sortez vos marises, vos poêles et vos moules. Aujourd'hui, on pâtisse avec deux cracks du métier. Ils sont surentraînés, ils ont la tête bien faite, vous allez voir, et des mains en or. Et ils embrassent à un jeune âge de grandes responsabilités dans deux palaces parisiens. Nous sommes ravis d'accueillir la chef pâtissière du restaurant 3 étoiles d'Alain Ducasse au Plaza Athénée et le chef pâtissier du Georges V à Paris, avec également un restaurant 3 étoiles, celui de Christian Lesquer, Jessica Préal-Pateau et Maxime Frédéric. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et en plus, nos deux jeunes prodiges, ils ont la pression car ils vont cuisiner en direct et, vous l'avez peut-être remarqué, en public. Bonjour cher public, merci beaucoup d'être là. Oui, car il faut vous dire, chers auditeurs, que depuis l'annonce de cette émission sucrée la semaine dernière, des demandes d'auditeurs pour assister à notre émission nous sont parvenues et on a exceptionnellement déménagé dans le studio 621. Vous savez, c'est le grand studio de l'Aminagui et de sa bande originale. On vous a lancé un défi, chers amis pâtissiers, nous apprendre à faire des desserts, pas comme dans vos cuisines de palace avec des brigades pléthoriques, mais comme dans vos kitchenettes à la maison, des recettes simples, bon marché, avec un minimum d'ustensiles. Vous êtes prêts ou pas? Oui.
Bien sûr.
Vous nous avez promis la simplicité.
On est prêts.
On va voir si vous respectez ce défi. Dans les fauteuils des chroniqueurs, une bec sucrée qui suit de très près, depuis très longtemps, tout ce qui se passe dans la pâtisserie française, c'est Elvira Masson. Bonjour.
Bonjour à tous. Et pas que française d'ailleurs.
Et oui, c'est vrai.
Moi, je m'intéresse à peu près à tout ce qui se passe dans le monde sucré, dans le monde d'ailleurs.
Globalement, tout ce qui est sucré, ouais.
Ouais, on peut dire ça. Et là, je vous emmène en Europe de l'Est.
Europe de l'Est, ouais. Pour une spécialité étonnante qui d'ailleurs fait des coups d'éclat sur la scène pâtissière parisienne.
Ouais, elle commence à être assez présente.
Ouais. Et dans toute la France. À nos côtés aussi, un barbu moustachu, c'est un ancien chef étoilé qui se bat pour que notre alimentation et notre gastronomie renouent avec l'agriculture du vivant. On va d'ailleurs cuisiner un peu nos deux jeunes pâtissiers sur la question écologique. C'est Arnaud Daguin, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Avec un coup de lame aujourd'hui encore.
Un coup d'amour, un coup de je t'aime aujourd'hui, c'est la fête des mères, il faut voter pour l'Europe. Donc,
bonne fête.
De raison pour exprimer de l'amour.
Bonne fête à toutes les mamans. Derrière la vitre de la régie, Laurent Thomas, Mathias Alléon, Juliette Delperouf, Nadia Chougui. Juste avant notre leçon de cuisine sucrée, on vous fait partager les coups de cœur dont on va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Il paraît que Papa Daguin a encore sévi. Alors on va quand même rappeler Arnaud qui est votre papa, André Daguin, ancien chef 2 étoiles de l'Hôtel de France à Auch, on est dans le Gers, ancien président également d'un syndicat puissant, l'UMI.
Oui, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière dans lequel il a sévi pendant plus de 15 ans, voilà, avec les succès qu'on connaît. Et donc mon père, ce cuisinier, André Daguin, et un copain à lui, tout aussi gascon, Michel Cassé, astrophysicien de renom, ont ensemble commis un livre formidable, un livre sidéral, roboratif, un livre complètement barré et plein de recettes pour cuire le canard et refroidir les astres. La toque du cuisinier et le chapeau pointu de l'astronome se côtoient, complices. Le premier remplit le vide de victuailles et le second ne voit pas des choses dans le ciel, mais du ciel dans les choses.
Ah.
Ne vous laissez pas rebuter par son titre rébarbatif et sa jaquette moche, on va dire. Ça s'appelle
Cosmologie culinaire. Ça fera plaisir à Odile Jacob. Ils savent
ça
pas choisir.
Ça s'appelle Cosmologie culinaire. C'est chez Odile Jacob et c'est une merveille.
Je la trouve pas si moche, cette couverture. Vous êtes sévère.
Ben écoute, nous ne partageons pas cet avis.
Il y a à la fois des œufs d'autruche, on devine un astre. La relation toute trouvée entre André Daguin, le fameux chef étoilé du Gers, et son ami Michel Cassé, qui est aussi gersois et astrophysicien de grande réputation.
Absolument. Les deux sont vraiment, vraiment bien barrés. Hein.
Eh bien, merci beaucoup pour ce conseil de lecture très intelligent qui fait voir, et c'est ce qu'on aime dans cette émission, la cuisine autrement. Est-ce que ça vous dirait, chers amis pâtissiers, que je vous emmène? Je vais vous allécher avec, attention, un des meilleurs glaciers d'Italie. Oui?
Parfait, on y va.
Oui, vous aimez les glaces?
Allons-y.
Le tout est de savoir si vous savez les faire.
Oui. On a l'impression.
On a de gros doutes.
Non, il n'y a pas de glace, y a pas de glace au menu. Non, il n'y a pas de glace au menu, mais on va les cuisiner évidemment sur la question. Je reviens tout juste d'une virée gastronomique à Bologne. Bologna, la capitale de l'Émilie-Romagne, au nord de l'Italie, est non seulement belle avec ses façades ocre et ses monuments du Moyen-Âge et de la Renaissance, mais cette ville est aussi d'une richesse gastronomique folle. On dit un peu que Bologne est à l'Italie ce que Lyon est à la France. Voilà, ça c'est mon côté chauvin lyonnais. Tortellini, vinaigre balsamique, parmigiano reggiano, mortadella, et plus étonnant, oui, dans une ville du Nord, a priori assez humide, pleine du pot, les gelati, oui. Il y a à Bologne une concentration de glaciers extraordinaires parmi les meilleurs de la botte, et mon gros coup de cœur, c'est Il Stefino. Un glacier qui ne travaille des gelati que 100% biologiques, avec des matières premières souvent locales, comme le lait cru, le latte crudo, qui vient d'une ferme de la région, des fruits frais, évidemment de saison, également bio, zéro additif, ni agent de texture.
Genre pas de caroube, pas de...
Rien.
Mais c'est incroyable, ça.
Juste des produits laitiers pour les crèmes glacées, des fruits et rien d'autre.
Mais le mot le plus important là, c'est lait cru.
Latte crudo.
Vous savez qu'on est en train de se battre aujourd'hui pour que ce lait cru continue à exister. Ils ont raison de s'en servir.
Eh bien, ils ont choisi chez ce glacier, effectivement, le lait cru. Vous voulez goûter?
Avec plaisir.
Je me suis glissé dans les coulisses de cette gelateria avec l'une de ses associées, Giorgia Mieli, pour une petite dégustation en compagnie de notre amie Alessandra Pierini, l'experte italienne de la bande dont on va déguster, qui assure la traduction.
Innanzitutto le macchine che fanno la trasformazione del gelato si chiamano mantecatori.
Alors ici, dans ce glacier, nous avons d'un côté un tout petit laboratoire avec des turbines à glace qui s'appellent aussi des mantecatrici. Sont en fait des émulsionneuses, ce qui permet de mettre tous les ingrédients liquides et avec une température en dessous de zéro, de les mélanger, de les émulsionner pour donner vraiment la consistance de la glace. Et ensuite, nous avons un frigo qui s'appelle una vetrina a pozzetto. Le pozzetto, c'est le puits dans lequel on se plonge pour aller ramasser la glace. Donc, visuellement, on ne voit rien. Il y a juste le frigo en inox avec des couvercles. Là, il y a environ une vingtaine de parfums différents. Et c'est gardé à une température de moins 10, moins 12 selon en fait les parfums. Ça permet de garder une glace qui n'a aucun additif chimique, aucun conservateur et surtout des ingrédients, des très bonnes matières premières à l'abri de la lumière, de la poussière et de l'oxydation et donc de la garder dans une très bonne condition.
In più, adesso ti faccio assaggiare il pistacchio appena fatto.
Elle vient d'arriver là, dans le puits, dans le.
Bah oui, c'est.
Che cos'è questo? Pistacchio.
Pistacchio. Grazie.
Un goût un peu toasté.
Oh, c'est délicieux. Déjà, ça a une couleur vert, très très pâle. C'est un peu granuleux.
Oui.
On est d'accord? La pistache est délicieuse.
Le parfum de pistache.
Ah, mais bonissime.
Vraiment incroyable.
Ah, oui.
Il n'y a aucun additif. Si, vous mettez quand même des matières naturelles pour la texture, non? Des agents de texture?
Non.
Rien.
Non.
Est-ce qu'on peut goûter un parfum le plus local possible avec à la fois du lait d'Émilie-Romagne, mais également, je ne sais pas, un fruit ou quelque chose? Il existe une glace, un parfum qui est 100% local?
Si. Abbiamo la fragola.
À la fraise. Et la fraise, elle vient d'un producteur local qui est l'agriculture. Il Serraglio, dans la province de Ferrare, juste à côté de Bologne.
Il faut battre la glace hein, pour la rendre un peu souple.
Là, la couleur est liée. Hein. C'est super. Grazie.
La fraise des jardins, exceptionnelle. Pas trop sucrée.
Ah oui.
Un goût de fraise authentique.
Délicieuse. Vraiment un goût de fruits. C'est super bon. Bonissime.
C'est vraiment excellent. Excellent. Et vous pouvez nous faire goûter un dernier parfum qui est peut-être celui, à part la pistache, qui a le plus de succès ici.
In questo momento è il cioccolato sgarbato.
Donc on va goûter en fait le best-seller du moment, c'est un chocolat qui s'appelle Cioccolato Sgarbato. C'est un nom qui vient propre à ce local. C'est de la glace faite sur une base de lait de chèvre qui vient de chèvre d'une vallée juste à côté et avec un tout petit peu de sel.
Oh là là. La couleur est très sombre. Merci. Extraordinaire.
Donc c'est pour les amateurs de chocolat plutôt amer, vraiment pour les amateurs de chocolat, mais ça a une longueur impressionnante. C'est vraiment super. Le sel relève en fait les saveurs, on ne le sent pas séparément, hein. Ça sert vraiment d'exhausteur de goût.
Bravo, hein. Extraordinaire. Grazie, merci beaucoup. Si vous voyagez en Émilie-Romagne dans les prochaines semaines ou cet été, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Ça fait rêver. Hein.
Faire une pause à Il Stefano, en plus avec des prix super accessibles. On est donc à Bologne. Le lait est à la base, hein, évidemment. Je me tourne vers Maxime Frédéric, qui a des origines normandes et qui est très attaché à l'origine du lait, et notamment du lait cru.
Bien
puisque
sûr.
Vous avez même une partie de votre famille qui est assez impliquée dans la fabrication de lait de grande qualité à base de vaches normandes en Normandie.
C'est ça. Et pour moi, c'est la base d'une bonne pâtisserie, en fin de compte. Et on se rend compte que même pour la glace, ça a vraiment une importance primordiale de travailler des bonnes matières premières. Et le lait est à la base de nos glaces, quoi. Donc si on utilise un lait pasteurisé ou stérilisé UHT,
ça allait mort.
On casse en fait la vie du produit.
Il en va de même pour le beurre ?
Il en va de même pour le beurre, la crème bien sûr, même le fromage blanc. Voilà, on essaie au maximum de travailler avec ces produits-là.
Vous allez voir que nos deux invités pâtissiers révolutionnent la pâtisserie. S'en passe des choses dans ce secteur évidemment aujourd'hui, mais y compris sur le plan de l'éco-responsabilité. C'est ça qui est tout à fait intéressant, car on sait que c'est le métier de bouche peut-être où il y avait le plus de résistance. Hein. On aime beaucoup les tartes à la framboise au mois de décembre.
C'est clair. Mais voilà. Il me plaît bien ce jeune homme-là.
Oui, oui.
Il vient de dire deux trucs qui m'intéressent.
Non, mais vous allez voir, il est intéressant. On va s'entendre. C'est pas des chefs de palace qui vivent dans leur tour d'ivoire. Vous allez le constater. Avec notre réalisatrice Laurent Thomas, on adore une chanson qui a le mérite de nous plonger aujourd'hui dans notre menu du jour. Sugar Sugar de Divine with Andy, choisi par notre programmateur musical Djoubaka. Le sacre du sucré dont on va déguster sur France Inter. And I'm thinking, can you run it by no means? Means I will never ever brew ourselves a tea for two. Such a precious story, boy, you'll be my follow. Hang on, hold on, wait on till I decide not to. With the sunrise, rise and shine is but a lie. Lie, bed is my other middle name. Name and shame me, please, please me. You take me for your new queen. Queen cakes are beyond your means. Means I will never ever. Just a tea, stir your milk up and sit down, please. No sugar, no coffee, no iced tea, no TV, no ice cream. Just a tea, stir your milk up and sit down, please.
Such no a precious sugar, no coffee, no boy, you'll be no my TV, fun. No ice cream, just a tea. Stir your milk up on and sit down, Damoley. Such no a precious no coffee.
Leçon de cuisine sucrée sur le plateau dont on va déguster avec deux jeunes artisans qui incarnent. Ils sont pas les seuls, mais en tout cas, ils en font partie de la, qui incarne la relève de la haute pâtisserie française. Jessica Préal-Pateau, chef pâtissière du Plaza Athénée. Maxime Frédéric, le chef pâtissier du Georges V à Paris, pendant qu'Elvira est déjà en train de s'engouffrer.
Je devais vérifier quelque chose, en fait.
Alors, allez-y, vous vérifiez quoi?
Un check.
Check and double check.
Non. Voilà, j'ai une assiette devant moi avec diverses choses, et parmi lesquelles une création ronde,
au hasard,
dorée, croustillante, feuilletée, qui contient en son cœur du riz au lait. Mais riz au lait cru, donc je voulais m'assurer que c'était bien du riz au lait cru. On parlait à l'instant, voilà. Non,
et les crus de Normandie, évidemment.
Bien sûr, les crus de Normandie, bien sûr.
De la famille?
Non, pas de la famille.
Mais ça va venir.
Mais ça, on essaye en tout cas.
Vous montez une filière de lait.
Exactement. L'idée, c'est d'aller travailler avec des petits producteurs. Mmh. Et donc, à côté de Rouen, je suis avec la ferme de la Fosse à l'eau. C'est
oui.
Une toute petite entreprise, 100 vaches, mais des passionnés et des amoureux de leurs vaches, mmh, pour le coup, qui font leur lait et qui transforment leur lait avec de la crème. Ils font le yaourt, ils font le beurre, ils font du fromage blanc. C'est des dingues. Hein, c'est...
Comment s'appelle ce que vient de goûter, Elvira?
Ah, c'est un petit feuilleté, c'est une viennoiserie, donc un feuilleté avec sarrasin, riz au lait et caramel onctueux.
Et une pointe de vanille.
Délicieux.
Et c'est sucré, c'est croustillant, mais pas trop
bien
sucré.
Sûr.
Ça lasse pas du tout le palais
en
gras.
En fait, c'est que des bons sucres. C'est que
c'est
du bon sucre. C'est pas du saccharose blanc raffiné. C'est, on est avec du sucre panela, bio, des farines bio, bien sûr, et beaucoup d'amour.
C'est quoi du sucre panela?
Sucre panela, c'est entre le sucre muscovado, qui a ce côté, d'accord, très mélassé, et le sucre de canne bio, on va dire le cassonade pour être un peu plus vulgaire.
Donc pas raffiné.
Voilà, il n'est pas du tout raffiné, c'est un sucre, on dit un sucre vivant. Quand on le remue dans son bac, en fait, il va encore continuer à bouger un peu comme un sable.
Il est plein de minéraux, c'est ça. Il n'est pas mort.
Il est très bon.
Il est plein de fibres aussi. Voilà que deux artisans, un artisan et une artisane, sont en train de casser l'image que l'on a du palace. On va pas se mentir, on va commencer même avec la question qui se fâche. Le palace parisien, c'est quand même a priori de l'extérieur comme ça, un peu un monde en vase clos, réservé à une certaine élite qui a évidemment les moyens de se payer tout ce que vous fabriquez et qui réclame souvent des assiettes de fruits rouges en plein mois de décembre. Comment on se situe par rapport à ça, Jessica?
Alors moi, je suis uniquement responsable du restaurant gastronomique.
C'est vrai.
Mais
alors
c'est
on rappelle
que
c'est le restaurant 3 étoiles d'Alain Ducasse, dont
exactement,
le chef exécutif est...
Le chef exécutif est Romain Médère. Donc moi, j'ai la chance vraiment de pouvoir m'occuper que de ce restaurant. Et la chance qu'on a aussi, c'est qu'on a un concept qui est basé sur la naturalité.
Oui.
Donc les gens comprennent qu'il n'y ait pas de framboises au mois de décembre. Après, c'est vrai que j'ai souvent des discussions avec Angelo Mussa et Alexandre Dufeu, qui sont les chefs pâtissiers, les chefs pâtissiers de l'hôtel. Et pour le coup, malheureusement, c'est les clients qui demandent, et les clients, on est obligé de répondre un petit peu à leurs demandes, mais c'est vrai que moi, ça me rend folle et j'ai souvent ce genre de conversation avec eux. Mais voilà, malheureusement, il faut aussi s'adapter aux clients. Et je pense par exemple à l'Ispahan de Pierre Hermé. Je pense que s'il arrête de le faire pendant 6 mois de l'année parce qu'il n'y a pas de framboises, voilà, c'est un petit peu...
Il y a un petit message à Pierre Hermé?
Pas du tout, ah non, non, absolument pas. Absolument pas.
En fait, c'est un message aux clients, là.
Oui,
voilà, c'est avec eux qu'il faudrait discuter.
Non, c'est pas du tout un message à Pierre Hermé, parce que déjà, sincèrement, c'est quelqu'un que je respecte.
En vrai, il faudra arrêter de le faire.
Mais oui, il faudra arrêter de le faire, mais le souci, c'est que voilà. Encore une fois, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est la clientèle qu'il y a autour, c'est tout un message à passer aussi. Ouais, il y a un peu plus de...
Vous évoquiez la naturalité chez Alain Ducasse, ce n'est pas que du marketing, c'en est même pas du tout en fait au Plaza Athénée, puisque c'est une ligne culinaire qui est donc conduite par Alain Ducasse et Romain Médère pour orienter le client très fortuné vers moins de viande, vers plus de végétal, vers des légumineuses, des céréales issues de paysans de la France entière.
C'est ça, exactement. Les fruits, je pense surtout aux fruits parce que c'est vrai que moi j'ai un vrai travail avec les producteurs de fruits et c'est très important pour nous de pouvoir sélectionner avec eux les fruits, enfin voilà. Il nous amène peut-être 4 ou 5 variétés de poires différentes et sur une assiette, on peut arriver à avoir des textures différentes rien qu'en ayant des poires de variétés différentes et c'est super intéressant.
On se met au boulot avec justement un premier produit de saison que je fais deviner à mon public. Vous avez les oreilles, attention, on est dans le jeu des 1000 euros de Nicolas Stoufflet. On commence avec un produit de saison, produit chéri par les pâtissiers en ce moment. Je suis une plante de la famille des polygonacées, cousine du sarrasin et de l'oseille. C'est ma tige aux reflets verts, rose fuchsia, parfois rouge, que l'on déguste pour ses délicieuses notes acidulées. Rhubarbe. Bah, ils l'avaient tous.
Tout le monde avait trouvé.
Voilà, rhubarbe. Vous aimez la rhubarbe?
Bien sûr.
Maxime Frédéric, là, comme ça, au débeauté, qu'est-ce que vous feriez avec une botte de tige de rhubarbe à la maison? J'ai bien dit.
À la maison.
Oui.
Alors, il y a des choses qu'on peut faire très simplement.
Oui.
Déjà, on peut la pocher. Tout simplement, on a un petit sirop bien assaisonné, aromatique, où on peut la cuire un peu plus originale pour faire impressionner un peu ses convives, mais qui est simple à faire encore une fois. On a l'habitude de travailler des viandes ou des poissons en croûte de sel. Là, c'est de travailler en croûte de sucre. Donc, vous allez mettre votre rhubarbe, vous prenez du sucre, vous savez, le sucre à choulquette, le sucre assez gros, vous le liez avec un peu de blanc d'œuf et vous mettez au milieu de ce sucre, vous mettez votre rhubarbe.
Ça alors?
Et vous la cuisez une petite demi-heure, trois quarts d'heure.
Donc elle confie véritablement.
Elle confie véritablement et vous n'avez pas besoin même de l'éplucher, simplement la laver proprement. Et en fait, le fait de la laisser en croûte de sucre va vraiment casser toutes les fibres et vous allez avoir une rhubarbe qui est très fondante.
Et on la mange avec quoi? Avec une
glace. Bah, avec une bonne glace, et une bonne glace au lait cru.
Voilà, une bonne glace au lait cru. Et bah voilà, la vie est belle, on aime beaucoup ça. Quand on a demandé à Jessica, après Alpato, si elle pouvait cuisiner quand même à la maison, vous ne pouvez pas tricher, on trahit un secret, vous êtes en congé maternité et vous faites pour le coup la cuisine à la maison et pas dans les conditions du Plaza Athénée, mais dans une toute petite kitchenette d'appartement parisien de quelques mètres carrés où il n'y a pas de four.
Non,
pratiquement.
Peut-être pas quand même, mais oui, d'accord. En effet, oui.
Mais
je me suis décalée pour avoir plus d'espace dans mon appartement, mais en tout cas, oui, c'est exactement ça. Donc j'ai vraiment joué le jeu. Donc je me suis levée à 7h ce matin et j'ai cuisiné donc une tarte. Et alors le kéfir, j'ai un peu triché parce qu'il faut quand même 5 jours pour le faire. C'est un petit peu long.
Alors kéfir de rhubarbe. Kéfir, boisson fermenté,
exactement.
Origine Coca, Eurasie, on peut fermenter avec, on peut faire des boissons à base de produits
vous
laitiers.
Vous pouvez
de
faire à base de produits laitiers, vous pouvez faire aussi à base de jus de, bah, pour le coup ici, un jus de rhubarbe. Donc voilà.
Mmh.
Ouais, c'est fort.
Mais il réveille, hein. Ah non, j'adore.
Oui, l'acidité. On sent que c'est le griscotte parfait. Là, tu peux manger du gras, du beurre et tout ce que tu veux parce que ça va être coupé en morceaux.
L'acidité de la rhubarbe qui vous envoie des flèches sur le palais, c'est incroyable.
Voilà. Et en général, c'est une boisson que vous avez au début du menu au restaurant. Voilà, c'est une boisson que vous avez vraiment en accueil.
Ça ouvre l'appétit.
C'est un trou normand avant le début du repas, en fait.
C'est ça, exactement, ouais.
Comment on s'y prend? Kéfir de rhubarbe, il y a souvent du troc, des échanges de cailloux.
Oui, exactement. Alors là, pour le coup, nous, c'est notre chef qui a réussi à les avoir. Donc, ça vient de sa grand-mère, qui les a donnés à sa mère, qui les a donnés à son oncle. Enfin, ça fait un peu le tour de la famille. Mm-hmm. Il m'a expliqué, mais je vous avoue que j'ai loupé les épisodes. Mais en tout cas, nous, on a des graines et ces graines, à force de les nourrir, forcément, ça gonfle. Et nous, on en a maintenant une grosse quantité. Et donc, du coup, c'est pas compliqué, mais c'est vrai qu'il faut quand même se procurer ces graines-là.
Et quand on n'a pas d'amis qui font du kéfir et qui peuvent nous fournir des petits cailloux, il y a la possibilité, il y a la case pharmacie.
Oui, il y a la case pharmacie. Alors, c'est pas des graines, c'est de la poudre. Oui. Ça fonctionne, mais pas. Vous aurez pas cette qualité-là. Mais c'est vrai qu'au niveau du goût, ça va y ressembler forcément.
Ce sont des bactéries lactiques et des levures qui sont déshydratées.
C'est ça, exactement. Et sinon, sur Internet, j'ai pu voir. Alors, parce que j'ai quand même regardé, vous pouvez en trouver. Il faut les garder au congélateur. Maintenant, voilà, je vous promets pas non plus malheureusement la qualité, mais je sais que ça peut se trouver.
D'accord.
J'ai vérifié.
Quand on a ces petits cailloux, comment on s'y prend en trois étapes, ce kéfir de rhubarbe?
Alors, vous faites votre jus, vous le mélangez du coup avec
Le jus, c'est quoi? Centrifugeuse?
Oui, exactement.
Ah bah voilà, vous avez triché. Quand on n'a pas de centrifugeuse,
donc elle n'a pas de four, mais elle a une centrifugeuse.
Ça devient compliqué là.
Centrifugeuse.
Vous faites du jus sans centrifugeuse.
Ça va être compliqué pour la raison.
Bon, alors centrifugeuse.
Ouais. Au mortier, d'accord. Mortier au chinois.
Oui,
vous allez avoir faim. Ouais.
On y passe la journée.
À l'ancienne.
Alors, jus de rhubarbe.
Donc, jus de rhubarbe avec un petit peu de sucre, forcément pour nourrir les levures.
Mm-hmm.
Les levures, vous mettez des figues aussi dedans, donc pour l'apport du sucre aussi.
Figues sèches.
Oui, exactement.
Le sucre que vous mettez, c'est du sucre semoule classique ou
c'est du sucre bio non raffiné.
D'accord.
En tout cas, dans cette recette-là. Mm-hmm. Après, vous pouvez mettre du sucre classique aussi, mais c'est vrai que nous, on privilégie aussi, comme Maxime, les sucres non raffinés. Et on met des morceaux de citron, voilà. Et ça, vous le laissez à l'extérieur pendant 2 jours, hein, et vous le laissez fermenter. Donc vraiment, juste avec une compresse pour que les bactéries se développent. Ensuite, vous le passez au chinois, vous récupérez vos graines de kéfir, au chinois. Je dis chinois, mais malheureusement, on n'a pas tout ça chez ça. Et du coup, ensuite, une fois que vous avez récupéré ces graines de kéfir, donc vous les rincez pour utiliser pour un autre kéfir. Et le kéfir qui vous reste, vous le conservez fermé encore une fois pendant 2 jours.
Mmh.
Et ensuite, vous le mettez au frigo.
Très bien.
Voilà, et vous le buvez maximum 2-3 jours après.
2-3 jours après,
ouais,
le temps que la lactofermentation fasse son effet.
Exactement.
Merveilleux, et en plus ce qu'on aime, c'est que c'est un élixir au reflet vermeil, c'est pas le côté rose fuchsia.
Ah oui, pour le coup,
artificiel.
Là c'est...
on est dans une boisson un peu champêtre, voilà, on aime vraiment beaucoup ça.
C'est vrai que la couleur fait pas forcément rêver, mais c'est vrai que... du goût, c'est intéressant.
En parlant de style champêtre, il y en a une sur le plateau qui affiche un style champêtre, c'est la tarte à la rhubarbe.
Oui.
Et pour cause, parce que là, pour le coup, vous n'avez vraiment pas triché. On peut parler d'une tarte à la rhubarbe à la MacGyver.
C'est ça.
Système D.
C'est ça, exactement.
Pourquoi?
Parce que sans four, donc du coup, il fallait cuire le fond de tarte sans four. Et l'idée, c'est vrai que le chef Romain Ménard en ce moment travaille beaucoup pour essayer de récupérer tout le pain. À la fin du service, on a énormément de pain qui nous reste.
Parce que c'est vrai que la
baguette, voilà, demande un vrai travail. Donc, du coup, les baguettes qu'on récupère, on les fait sécher et on fait une poudre avec. Et cette poudre-là, on la réutilise. Mm-hmm. Donc, on a fait beaucoup d'essais avec. On a fait des cakes. On a fait énormément de choses. Et on a fait aussi cette base de fond de tarte. Voilà, qui est juste mélangée avec du beurre et des œufs. Et du coup, ce fond de tarte, on le cuit à la poêle après. Voilà, donc j'ai passé à peu près 10-15 minutes ce matin à la retourner, et voilà, faut juste faire attention à pas trop la colorer, ce qui est un peu plus compliqué, mais sans matière grasse, sans ajout de matière grasse, vous allez voir que vraiment la mie avec le beurre, vous avez pas besoin de le retravailler.
Donc c'est beurre et reste de pain.
Exactement.
Oui. L'arrivée de l'économie circulaire au Plaza. De petits
crackers.
Formidable.
C'est quoi la texture de cette pâte, Maxime Frédéric?
Vous
qui venez de la croquer.
Très croquante, on dirait un peu comme un pain toasté en fin de compte.
Ça vous plaît?
Ouais, c'est super bon. Ouais, super bon, et facile à faire à la maison en plus.
Oui, ouais, totalement.
Il y a une espèce d'irrégularité, c'est ça qui est beau. Vous faites d'ailleurs au Plaza Athénée plutôt une cuisine sucrée plus qu'une pâtisserie. Vous n'êtes pas tellement dans l'architecture, vous êtes davantage dans ce geste à la minute, de façon très spontanée. Vous appliquez finalement les codes de la cuisine au registre sucré.
Oui, tout à fait. Quand je suis arrivée, et encore aujourd'hui, je travaille souvent avec le chef Romain Ménard. On a absolument envie d'avoir cette continuité entre la cuisine et la pâtisserie, et ce style de dessert dressé à la minute, pour moi, c'est quand même important. C'est un dessert à l'assiette, donc le fait de poser juste un dessert sur une assiette, c'est un petit peu, voilà, c'est pas du tout mon concept, en tout cas. Et le fait de rôtir aussi et d'apporter tous ces éléments vraiment différents qui font que ça, voilà, le dessert à l'assiette est totalement différent à chaque bouchée aussi, c'est très important.
Avec produits de saison, etc. Et tous ces desserts, on peut les retrouver dans un magnifique livre qui est un peu plus qu'un livre de recettes, presque un manifeste de la naturalité dans les desserts, d'où son titre « Desséralité, Jessica Préal-Pateau » aux éditions, je vous le donne en mille.
Alain Ducasse.
Aux éditions Alain Ducasse. Dans un instant, attention, superbe gâteau, je le dis bien, moi j'ai été soufflé la première fois que j'ai planté mes crocs dedans, l'anicien de Maxime Frédéric, mais juste avant... Arnaud Daguin tranche avec son coup de lame.
France Inter. On va déguster.
Mon cher enfant, ce matin tu t'es levé et tu y as pensé tout de suite. C'est la fête des mamans, donc de la tienne. Maman, mama, momi, mouti, ama, dans presque toutes les langues, miam miam et maman, c'est pareil. Chez toi et tes frères mammifères, les mammifères donc, la maman, c'est d'abord le manger. C'est donc empli de gratitude que tu as filé en cuisine pour lui préparer le petit-déj. Un petit-déj doux, bien sûr, bien sucré, bien moelleux, bien rondelé. Mais ça, ce sont tes goûts à toi, tes goûts d'enfant, et si ça se trouve, ta mère, elle aime pas les goûts doux. Devant tant de sucre, elle va être en panique, ta mère. Il se pourrait bien que ta mère, elle préfère la mère. La mère, le goût qui arrive en dernier dans ta perception, la mère qui ne supporte pas le moindre excès. Tu peux toujours ingurgiter trop salé, trop sucré, trop acide même. Trop amer, tu peux pas. Impossible, inhumain, refus total, instinctif, le moindre excès te fait gerber. Normal, la plupart des toxiques, champignons, plantes, baies sauvages, se définissent par l'amertume. Et le fiel, et la bile que personne ne goûte, pas plus au propre qu'au figuré. Dans la mémoire archaïque, la mer est encore un signal de danger. Moi-même, vois-tu, je suis un poil circonspect face à une fricassée d'amanite phalloïde à la sauce ciguë. Mais bon, l'amertume, c'est aussi le zan, le cachou, le zeste de citron, le petit noir au comptoir, la suze, la mer picon, la mer ricano. La mère exige un apprentissage. Il demande pour s'exprimer un gosier éclairé. D'ailleurs, ne chante-t-on pas la mère qu'on voit danser le long des gorges claires? Démarrer ses jours par l'amertume, serait-ce conjurer l'amertume des jours? Non, je ne t'incite pas, mon cher enfant, à servir un picombière à ta daronne à 7 heures du mat, agrémenté d'un compliment cucu et d'un joli bouquet. Mais
et d'un collier de pâte.
Mais pourquoi ne pas lui proposer des œufs brouillés à la poutargue ou aux épinards, des asperges sautées à la ventrèche et du pain toasté bien amer, une poêlée d'endive à l'orange? La mère, instinctivement, tu n'irais pas. Mais quand ce goût-là te prend, c'est pour toujours. C'est pas l'homme qui prend la mère, c'est la mère qui prend l'homme, disait Renaud, chanteur imbibé de sagesse. Salé, sucré, acide, amer, ce n'est pas tout. Il existe un cinquième goût.
Parfaitement, Arnaud. Je sais lequel est-il, lequel il est d'ailleurs. C'est l'umami.
L'umami, le sapide, le savoureux, l'asiatique, sur lequel je ne m'étendrai pas ce matin. L'umami, j'en parlerai le jour de la fête des grands-mères. Ça paraît logique. Et plus tard. Et bien plus tard, de l'oupapi, le goût qui n'existe pas encore, mais on va l'inventer. Allez.
Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup Arnaud, excellent. Et on en profite pour souhaiter évidemment une bonne fête à toutes les mamans, à commencer par la mienne. Maxime Frédéric, dans un instant, vous allez nous faire goûter donc un gâteau qui a été plus ou moins proposé par l'un des membres de votre brigade. Vous dirigez quand même 43 personnes au Georges V, puisque vous vous occupez, en plus du restaurant 3 étoiles de Christian Lesquer, et ben des petits déjeuners, du room service, de tout, du salon de thé, etc.
Bien sûr, on n'oublie pas la boulangerie, les viennoiseries.
Et vous êtes très attaché aux traditions de famille, aux gâteaux de voyage, aux gâteaux régionaux.
C'est ça, moi, j'ai eu la chance d'apprendre la pâtisserie avec mes grands-mères. Et plus qu'avec ma maman d'ailleurs. Mm-hmm. Je souhaite une bonne fête à ma maman. Bah, je fais des gros bisous. Même.
Comment s'appelle-t-elle?
Elle s'appelle Marie-Claude, elle est en Espagne. Là.
Marie-Claude qui porte un beau prénom de fruit en plus.
Et donc oui, on s'occupe du sucré, mais on a une grosse brigade, c'est vrai. On a une belle brigade et Stanessien, en fait, il est sorti à Noël grâce à Martin Giroux, un de mes sous-chefs, un de mes adjoints qui me suit depuis maintenant 3 ans au Georges V. Mm-hmm. Et en fin de compte, c'est un produit plus de famille qu'on pourrait faire à la maison. C'est un gâteau que je connaissais pas du tout. Mm-hmm. On l'a goûté tout simplement. Je rentrais de vacances, Martin me fait tiens, goûte et waouh, c'était super bon.
Je dis une bêtise si on dit qu'on n'est pas très loin du gâteau de Savoie.
C'est exactement ça. En fait, on est plus léger que le gâteau de Savoie.
D'accord.
Dans l'esprit, il faut s'imaginer un boudoir. Quand on est enfant, enfin moi j'ai mangé énormément de boudoir quand j'étais enfant. Et en fait, ça reprend un peu le goût du boudoir. Mm-hmm. Donc on est vraiment plongé dans l'enfance. On retombe dans ces goûts-là, très sympa.
Sauf que le boudoir, c'est un peu sécos.
Sauf que c'est un peu sécos. Et donc là, on n'est pas du tout sec. On est très croustillant sur l'extérieur parce qu'en fin de compte, le secret vient du beurrage du moule.
Oui.
On va beurrer. Et on va pas fariner le moule, mais on va le sucrer.
Écoutez bien, on ne beurre pas. Alors le moule, il s'agit de ce moule en couronne, un peu le moule.
Exactement.
À savarin, non ?
On va prendre un moule à savarin classique, mm-hmm. On va le beurrer, et au lieu de mettre de la farine, on va sucrer.
Et ça fait quoi comme effet ?
Et en fin de compte, sorti du four, vous démoulez, donc ça va pas coller, hein, faut mm-hmm. bien beurrer. Et ça va donner cette croûte très, très croustillante, limite pétillante. Parce que le sucre n'a pas fondu, n'a pas caramélisé, il reste vraiment sucre.
C'est ça, c'est presque pétillant en bouche.
Mm-hmm. Voilà, et en fait l'intérieur, c'est une... L'intérieur, c'est une meringue. Donc, l'appareil est le plus simple du monde. Vous faites une meringue blanc sucre, vous ajoutez le beurre fondu et de la farine. Un petit point de vanille si vous voulez.
Il y en a de la vanille là.
Il y en a beaucoup.
C'est généreux.
Vanille Tahiti, une vanille florale que j'apprécie beaucoup. Et voilà.
C'est incroyable. Jessica, vous avez goûté ça ou pas?
Pas encore. Je vais voler un petit morceau. Merci.
C'est dingue ce gâteau, c'est absolument dingue.
Ouais.
La recette d'ailleurs sur franceinter.fr à la page, on va déguster. C'est une espèce de nuage.
C'est un coussin.
Il y a cette texture.
Oui.
En fait, le sucre emprisonne, c'est ça le gâteau dans son humidité.
L'idée de cette coque de sucre, enfin de cette croûte sucrée, mm-hmm. va vraiment imperméabiliser le gâteau. Ça. Et donc toute l'humidité qui y a à l'intérieur mm-hmm. va rester dedans. Et c'est un gâteau que vous pouvez goûter, enfin vous pouvez garder facilement 3-4 jours à la maison, simplement le mettre dans un petit linge, et même pas humide, faut juste laisser comme ça. Mmh. Et moi, je le ramène chez mes parents de temps en temps, je le fais à la maison même. C'est super simple.
Mais c'est incroyable, et je n'exagère pas, faites-le à la maison, vous comprendrez très vite. Il y a d'ailleurs le public qui est en train de se régaler, car vous avez eu la gentillesse de venir avec une partie de votre équipe.
C'est ça.
Merci beaucoup,
merci
Maxime.
À vous, c'est un plaisir.
Et qui distribue justement cet excellent gâteau à notre public venu assez nombreux dans le studio 621.
Ce matin dans la glace, je ne me reconnais pas. Quels sont ces 5 pouces? Il est un très belle femme par cette petite secousse. Comme une princesse qui tousse, je change de carapace. Il est un très belle femme, anima animus. En moi se cherche le plus, je suis bien plus que un. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin, le yin. Dans le yang, le yin est dans le yang est dans le yin, le yang est dans le yin est dans le yang. Oh, oh, mes femmes, au milieu, sois toi-même. Être unique est précieux. Elles sont ses poils qui poussent. Elle est un très bel homme par ses petites secousses. Un garagiste qui tousse. Je change de carapace. Elle est un très bel homme. Anima animus. En moi se cherche de plus. Je suis bien plus que us. La yin est dans la yang. Le yang est dans le yin. La yang est dans la yin. Le yin est dans le yang. Le yin est dans le yang. Le yang est dans le yin. La yang est dans le yin. Le yin est dans le yang. Oh, oh, mes femmes au milieu, sois toi-même. Être unique est précieux.
Jessica Préalpato, chef du Plaza Athénée à Paris. Maxime Frédéric du Georges V Four Seasons à Paris. Vous êtes debout, vous allez nous préparer une prouesse pour notre public venu assez nombreux. Merci beaucoup d'être là. Et on a justement un gastronome en culotte courte qui s'est glissé au micro parce qu'il a goûté l'Annécien, ce fameux gâteau, donc originaire d'Annecy, on l'a bien compris. Comment tu t'appelles ?
Auguste.
Et tu as quel âge ?
12 ans.
Et la bonne nouvelle, il m'a dit quand même, dans les coulisses de cette émission, que c'était un podcasteur compulsif dont on va déguster. Ça fait plaisir d'avoir quand même des auditeurs aussi jeunes. Tu l'as goûté, ce gâteau, l'Annécien ?
Tout à fait.
Alors ?
C'est génial, ça, c'est un nuage, ça, oui, ça volerait presque.
S'il y avait moins de beurre, ça volerait.
Ça volerait presque. En fait, c'est assez trompeur parce que si je regarde la liste des ingrédients, bon bah non, oui. Ça va en fait. 130 grammes de beurre, enfin, on a connu plus
riche, mais c'est du bon beurre. Donc c'est ce qui est important.
Ça volerait presque, mais il a raison. Tout est dit en fait quand on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Merci beaucoup. Hein. C'est très gentil à toi, Martin Jaroux. On le félicite et on le remercie. C'est le chef adjoint de votre brigade et c'est de lui que vient cette recette.
Exactement.
Car il est d'origine d'Annecy.
Exactement. C'est du village d'Annecy et c'est grâce à lui. Il me soutient.
Village.
Enfin, le petit village, quoi. Bah, lui, Annecy. Il est plutôt de la campagne.
Ah oui,
hein. Il est vraiment là-haut. Il monte dans ses montagnes. Et,
J'en profite pour dire d'ailleurs à nos auditeurs que nous serons au Festival du film d'animation d'Annecy pour une émission qui sera diffusée le 16 juin, mais enregistrée le vendredi 14. Voilà, si vous voulez vous joindre au public du Festival du film d'animation pour assister à notre émission, surtout, n'hésitez pas. Elvira, il y a une question.
Oui, une question d'auditeur qui vous demande si, outre les sucres, entre guillemets, alternatifs, non raffinés, vous travaillez également avec des farines autres que celles de blé, par exemple, riz, épeautre, etc.
Bien sûr. Enfin, moi, je suis à la base boulanger, donc j'ai...
C'est vrai, ça.
J'ai commencé par ça et je suis très attaché à la farine et au goût des bonnes choses. Donc oui, forcément, farine de sarrasin, farine de seigle, farine de riz noir. Voilà,
c'est pas plus compliqué à travailler ?
Forcément, il y a moins de gluten. Alors, certaines, il n'y a pas de gluten du tout. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on découvre de nouvelles textures. Par exemple, pour des tuiles au riz, des tuiles au riz noir, c'est vraiment super intéressant. Et on utilise ça vraiment énormément.
Et l'ensemble de votre gamme de boulangerie, dans votre hôtel, est bio ?
Et 100% bio, oui.
À 100% bio.
Même les viennoiseries.
Et quelle proportion de bio dans vos desserts ?
Alors l'idée, ça c'est un gros travail qu'on fait actuellement, c'est un travail de sourcing pour aller chercher des petits producteurs. Le plus compliqué c'est les fruits frais. Mm-hmm. Là je suis en train de travailler avec ces petits producteurs bio pour tout ce qui est crèmerie. C'est pour moi c'est primordial. J'ai moitié du, enfin mes veines c'est un peu du sang, mais il y a beaucoup de lait aussi qui coule. Donc pour moi c'est très important de mettre ça en avant et puis d'avoir aussi de montrer cette philosophie à mes équipes. C'est-à-dire que d'ouvrir une brique de lait, c'est le plus simple du monde. Tout le monde fait ça à la maison. Mais d'avoir vraiment ce regard d'avoir conscience en fait que quand on ouvre cette brique de lait, de tout le travail qui est en amont, de nos petits producteurs qui mettent tellement d'amour dedans, et de pas simplement se ouvrir la brique de lait, servir son bol de lait ou faire son chocolat chaud avec. Ouais, vraiment d'avoir ce recul là. Et quand on a ça finalement, bah ça a aussi un autre regard sur notre pâtisserie. On met beaucoup plus d'amour. Enfin voilà, je pense que c'est une philosophie. Ça change déjà le goût bien sûr, mais aussi la manière dont on va travailler. Mon équipe et le respect qu'ils vont mettre dans les produits.
Vous êtes debout, Maxime Frédéric, oui, pour réaliser une prouesse. C'est un dessert signature qui a connu énormément de succès sur les réseaux sociaux également. Vous êtes d'ailleurs connu dans le monde entier pour ça. Vous êtes très très suivi sur les réseaux sociaux. Mais vous avez quand même pas mal de fans un peu partout. Racontez-nous ce dessert. Il s'appelle Fleur de Vacherin.
C'est la fleur de Vacherin, exactement. Donc ça reprend tous les codes d'un Vacherin. Donc on va avoir une chantilly. Donc là, c'est une mousse au fromage blanc, mais dans l'esprit d'une chantilly. On va avoir un sorbet, un fruit et des meringues. Mmh. Voilà, tout simplement.
Vous avez une poche à douille, oui. Un chalumeau.
C'est ça, un petit chalumeau. Donc là, on a une assiette dans laquelle on a réalisé une petite rosace de framboise. Mmh. On a ajouté dessus une petite vinaigrette avec un jus de framboise, vinaigre balsamique et huile d'olive. Une petite compotée de framboise tombée avec de la menthe fraîche. Mmh. Et là, je prends un petit pochon. Donc un petit pochon, c'est une mini louche dans laquelle j'ai mis à l'intérieur donc la mousse au fromage blanc.
Oui.
Je vais insérer le sorbet framboise.
Oh là là.
Hop, tout simplement pour qu'il se retrouve au cœur.
À l'intérieur de cette petite louche, vous rabattez la crème.
Je l'emprisonne parfaitement dedans.
Oui.
Hop, je viens obturer cette petite louche, donc je viens la fermer avec le sablé à l'anis.
Waouh.
Et là, d'un petit coup de chalumeau, je vais faire fondre le premier millimètre de mousse tout autour.
Vous passez la fine louche sur le chalumeau et ça va permettre de décoller cette demi-sphère.
Ça va faire fondre la mousse.
Oui. Ouh. Oh là, quelle dextérité.
Et voilà.
Et vous posez ce dôme sur votre lit de framboise.
Exactement. Et après, j'ai préparé donc plein de petites pétales de meringue.
Oui.
Donc très fines. Moi, de base, j'aime pas trop la meringue. Mais j'aime bien dans le dessert, elle a de l'importance parce qu'elle va donner du croustillant.
Mm-hmm.
Et elles sont très très fines. C'est comme du papier. Voilà, comme une feuille de papier.
Attendez, comment on fait des meringues aussi fines?
Alors, très simplement, on va faire une meringue française, donc des blancs, du sucre et du sucre glace, en temps pour temps. Mm-hmm. D'accord, 100 grammes de blanc, 100 grammes de sucre, 100 grammes de sucre glace. On fait monter les blancs, on sert avec le sucre semoule. Et ensuite, on va ajouter le sucre glace. Après, on va mettre ça dans une petite poche à douille, on fait des petites gouttes de meringue, et on va étaler très finement avec une petite spatule. Et ça, une fois étalé, on le met dans une petite gouttière pour donner la forme et le galbe à chaque pétale.
Incroyable. Vous le connaissiez ou pas ce dessert, Jessica Préalpato?
Alors, je le connaissais, oui. Je l'ai déjà goûté deux ou trois fois. Mm-hmm. J'aime beaucoup le tea time du Prince de Galles, ça y est, maintenant je parle de la concurrence, la honte.
C'est des amis, ce sont des amis.
Mais des voisins, des voisins.
Alors, j'ai cité Nicolas comme ça aussi, ça fait de la pub pour lui.
Bien sûr.
Non, j'aime beaucoup le tea time du Georges V, mais il sait déjà très bien, je suis très fan de ses desserts.
Mais j'ai eu la chance de l'accueillir il y a pas longtemps, Jessica.
J'ai eu il y a deux semaines, oui.
Pendant que vous finissez de dresser, c'est un travail extrêmement minutieux. On peut même dire que c'est vraiment un travail
de
fourmi. Il s'agit de coller des pétales d'une finesse extrême. C'est de la feuille de papier à cigarette. Voilà, vous assemblez.
On assemble chaque pétale. L'idée, c'est de reprendre une fleur. Oui. De reproduire une fleur.
On rebondit justement sur les fruits, les produits de saison avec vous, Jessica Préalpato. Vous disiez d'ailleurs que c'était peut-être ce qu'il y avait de plus compliqué dans votre métier, c'est de fidéliser des petits producteurs qui en général n'ont pas des gros volumes, de les fidéliser, de nouer une véritable relation de confiance avec eux pour se fournir chez eux, obtenir leurs produits.
C'est ça. Alors déjà, c'est compliqué de trouver des produits de saison. Je pense l'année dernière à la fraise qui nous a duré 3 semaines à la carte, sachant que nous, on met environ entre un mois et un mois et demi à créer un dessert. C'est très compliqué, du coup, après, de pouvoir sortir un dessert et de le laisser 2 ou 3 semaines à la carte. Donc, on fait vraiment en fonction de la saisonnalité et en fonction de nos fournisseurs. Et c'est vraiment en fonction d'eux qu'on va mettre notre carte en place. S'il n'y a plus de fraises au bout de 2 semaines, il n'y a plus de fraises au bout de 2 semaines. Et voilà, on arrive à l'expliquer. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on a aussi Denis Courtiette, qui est le directeur du restaurant, qui a un vrai discours derrière et qui comprend aussi et qui explique aux clients pourquoi.
C'est rare, ça, dans un palace. En général, un dessert reste beaucoup plus longtemps que ça à la carte. Votre réactivité, la souplesse avec laquelle vous changez votre carte est assez
Après, on a des desserts un petit peu... on a des desserts qui sont toujours un petit peu à gauche, à droite, qu'on réutilise quand on n'a plus de fruits. Le temps de recréer un nouveau dessert, on va mettre un dessert à base de caillé, par exemple, etc. Juste le temps de créer un nouveau dessert, et dès que ce nouveau dessert est créé, ensuite, on, on le bascule, mais c'est vrai que voilà, on s'adapte énormément à la saisonnalité. Et donc nos fournisseurs, oui, ils sont très très importants pour nous, forcément, parce que c'est eux qui sélectionnent les produits, c'est eux qui nous amènent la maturité, qui nous amènent la bonne température aussi. Voilà, donc tout est très important pour nous.
Arnaud Daguin ?
Je suis enchanté d'entendre et de voir en fait ce qui se passe au niveau de la pâtisserie dans ces établissements qui étaient quand même connus pour être complètement déconnectés du monde, quel qu'il soit, et de la production en général. C'est absolument... un ravissement pour moi de comprendre que maintenant, dans ces pilotes qui sont vraiment des établissements qui vont au bout du bout du bout, on le voit là en ce moment, de l'accomplissement de quelque chose, on commence à tenir compte de la profondeur et de la verticalité de nos problèmes et agricoles et de production. Et c'est formidable. Voilà, je trouve ça très très
et
bien.
Par ailleurs,
c'est
bon,
le métier change et c'est grâce à la jeunesse. Vous avez 29 ans, je crois, Maxime Frédéric. Vous avez à peine plus Jessica Préalpato. C'est grâce à vous qui avait conscience justement de ces problématiques que le métier avance.
Et notamment le souci de ne pas gaspiller.
Et le souci de ne pas gaspiller. Ah, oui,
oui, oui. On aime à penser qu'on n'y est pas pour rien.
D'ailleurs, Maxime Frédéric, vous m'expliquez quand je vous ai demandé si vous jetiez, parce qu'on jette dans tous les palaces et dans tous les restaurants gastronomiques de façon générale, vous essayez de recycler un maximum et notamment pour les équipes qui travaillent avec vous et pour toutes les brigades qui travaillent dans la restauration.
Exactement. En fait, on est une très belle équipe au Georges V. On est 650 employés. Et donc on a un restaurant du personnel dans lequel en fait redescend tous les produits qui ne sont pas consommés par nos clients, aussi bien les produits du tea time, mais aussi notre pain, nos viennoiseries, et tout ça est redistribué à tous nos employés, et finalement tout le monde se régale et tout le monde a la chance de pouvoir goûter aussi l'expérience de nos clients.
Et vous avez fini la fleur de vacherin ?
Il reste encore une petite dizaine de pétales.
Une petite dizaine de
c'est
pétales,
du boulot,
c'est magnifique, c'est
formidable. Je vous propose un autre dessert d'origine un peu moins française.
On va déguster sur France Inter.
Elvira Masson, notre bec sucré pendant que Maxime Frédéric finit cette fleur de vacherin. Ah, elle est finie.
Elle est finie.
On peut l'applaudir. Waouh. Oh là là. Exceptionnel. Quelle délicatesse. Et à ce niveau-là, c'est véritablement de la joaillerie pâtissière. C'est splendide.
C'est hyper élégant. Hein. Oui, moins français, puis moins palace aussi. Jessica, je crois savoir que vous êtes assez sensible au charme des gâteaux traditionnels qui portent en eux une très forte mémoire, avec des gestes qui se transmettent de génération en génération.
Oui.
Je pense dans votre cas au miasson, au miassou que préparait votre grand-mère, votre grand-mère le dimanche.
C'est quoi ?
C'est marrant, je sais.
Voilà qui me touche.
C'est à la carte du restaurant, on a fait un dessert autour de la fraise et du sapin. Et c'est vrai qu'on pousse énormément les goûts, donc ceux qui ont eu la chance de venir goûter, c'est vrai qu'on aime bien dérouter un petit peu les clients. Et à côté, j'aime beaucoup mettre un dessert classique. Quelque chose de très gourmand, voilà, pour un petit peu rassurer le client, voilà, pour voir qu'on l'a pas non plus totalement perdu, pour garder ce côté gourmand. Et le miasson, en effet, c'est un gâteau que je faisais
du sud-ouest.
Du sud-ouest. Alors normalement, ça s'appelle la miasson.
C'est pour ça qu'Arnaud, il roule des yeux particulièrement, le miasson. J'avoue que là, je suis touché au cœur.
C'est quoi? C'est un genre de flan, ou on pourrait dire?
Alors,
un
ma grand-mère appelait ça le miasson. Visiblement, on le trouve plus facilement sous le nom de mias.
Ouais.
Et c'est un petit peu, alors le chef Romain Ménard m'a dit oui, c'est un flan. Non, c'est pas un flan, c'est un miasson. Donc voilà. C'est différent pour moi dans ma tête, mais c'est vrai que c'est un dessert que je faisais avec ma grand-mère tous les dimanches. Ouais.
Et ça se fait à l'origine avec de la farine de maïs.
C'est ça, exactement, tout à fait.
Alors moi, c'est pas dans le sud-ouest que je vous emmène, mais quand même bien du côté des grands-mères en Europe de l'Est. Savez-vous comment on dit grand-mère en polonais ?
Ah, Cole.
On dit babka, mais je crois que ça se prononce babcia. Est-ce que vous avez déjà mangé une babka ?
Oui.
Je parle pas d'une grand-mère, là.
Tout le monde ?
Vivante.
Babka, on va bientôt savoir ce que c'est.
Difficile de leur échapper ces temps-ci. Elles sont de tous les coffee shops un peu lancés, de toutes les boulangeries à la mode à Paris, Londres et New York, et sont en passe de détrôner une autre spécialité originaire d'Europe de l'Est, le cheesecake. C'est ceci, une babka.
Oui, marbré de chocolat.
C'est ça. Une brioche moulée, dense, lourde, tressée, marbrée de chocolat. Elle est née en Pologne, ou peut-être en Biélorussie, ou en Ukraine, ou en Russie. Comme la plupart des recettes de tradition orale non codifiées, on peut pas leur donner une origine forcément si précise que ça. Au départ, c'était plutôt un genre de génoise sans chocolat, et ça a évolué au fil du temps, comme toujours, encore une fois, ces recettes non codifiées. La babka, qu'on appelle également kranz, quand le tressage est plus rond, en forme de couronne, ou kokosh, dans sa version hongroise, et non tressée, mais roulée à la façon d'un strudel. La babka, donc, fait partie de la grande famille des gâteaux d'Europe de l'Est, que j'aime énormément.
Moi aussi.
Intimement liée à la tradition juive
ashkénazes, parmi lesquelles on trouve donc le fameux cheesecake, le strudel, le gâteau au pavot, et un peu moins connu, le cernik, qui est à l'origine du cheesecake en Pologne, les blintzes, qui sont ces espèces de crêpes au fromage blanc, les rugelach, croissant au chocolat, toutes ces spécialités que l'on trouve assez facilement dans les délis à New York, en Israël, qu'on a trouvé aussi beaucoup à Paris, longtemps à Paris, uniquement du côté de la rue des Rosiers, chez Finkelstein, vous connaissez l'extraordinaire petite boutique à la devanture jaune. On commence à la trouver maintenant ailleurs, chez ces jeunes boulangers nouvelle génération, qui sont un peu votre pendant à vous. Vous, vous êtes la jeune génération des palaces. Il y a une jeune génération de la boulange qui a à peine 30 ans et qui travaille de manière très traditionnel, beaucoup au levain naturel, bien sûr.
Là aussi, en faisant attention à leur matière
ouais,
première.
Beaucoup, très attention au sourcing, et qui sont très ouverts au répertoire venu d'ailleurs. On trouve beaucoup, ces temps-ci, de rouler à la cannelle d'inspiration scandinave, et cette fameuse babka, qui vient donc d'une boulangerie à côté de laquelle j'ai le malheur d'habiter, tant tout ce qui sort de son fournil est absolument redoutable.
Ah oui, c'est vous êtes juste à côté, d'accord.
Non, je me plaignais pas vraiment.
Ça s'appelle du copinage de voisinage,
c'est
en fait.
Ça. Okay. C'est la boulangerie Mamiche, qui a été créée par deux jeunes femmes formidables qui travaillent comme des dingues et qui ont un talent fou. Deux ou trois choses que je sais de leur babka. Elle contient de la crème, beaucoup, ce qui n'est pas forcément tout à fait traditionnel.
Cru, de Normandie.
Oui, beaucoup de beurre aussi, de la fleur d'oranger. Vous avez goûté ou pas? Vous sentez une petite pointe de fleur d'oranger?
Je goûte.
Voilà. La difficulté de la babka, c'est la pousse. Trop poussée, elle devient sèche. Pas assez, elle est trop serrée. Le tressage n'est pas évident non plus. La cuisson est complexe. Il ne faut pas la sécher. En même temps, il faut qu'elle croûte bien comme il faut. Je ne vous donne pas la recette là, maintenant, parce que c'est un peu long et un peu compliqué. Sur le site, je vous ai mis la recette de babka, livrée par Annabelle Chakmes dans son génial livre de cuisine juive édité chez Grund.
On l'avait déjà reçu d'ailleurs.
Une recette merveilleuse. Vous savez, en anglais, on emploie l'expression de comfort food pour qualifier... L'expression est un peu galvaudée pour qualifier quelque chose qui est un peu réjouissant. Alors moi, voilà, ce genre de babka, je ne sais pas si c'est le marbrage ou le tressage, la présence de la fleur d'oranger, mais je trouve que c'est le réconfort absolu.
Ah oui, voilà. Un mélange de brioche avec ce côté très régressif du chocolat, c'est prodigieux. Ouais. Vraiment, la babka ouais. de Mamiche, je l'ai même connue, pour être honnête, encore plus fondante.
Alors, je vais vous dire la vérité, j'ai acheté hier matin parce que j'avais pas le temps d'y passer, parce que c'est fermé le dimanche, donc j'avais pas le temps d'y passer hier soir. Donc voilà, il aurait fallu idéalement qu'on la passe un petit peu au four. Mais voilà, il n'y a pas de four à portée de main.
Mais c'est quand même un régal. Merci pour cet hommage à la babka qui effectivement arrive jusqu'à nous et c'est une excellente nouvelle. Et pas seulement d'ailleurs dans les familles, souvent familles juives askénazes qui font justement cette fabuleuse babka. Il nous reste une poignée de minutes, le temps d'évoquer encore quelques toutes petites saveurs. Le gâteau nantais, selon le même principe de demander aux gens, aux membres de sa brigade, un gâteau de famille. Il a été sélectionné, vous l'avez vraiment poussé... dans sa dimension perfectionniste. Et vous en avez fait le gâteau qui est sous nos yeux.
C'est ça. J'ai une chance inouïe déjà d'avoir une équipe...
Mais en fait, vous faites rien, vous.
Moi, je suis... Exactement.
C'est ça le talent.
Il va chercher le lait cru à la ferme en Normandie.
C'est du boulot.
Il revient avec les pots de lait voilà. En fer blanc.
Non, mais en gros, ce qui est génial, enfin, en tout cas, moi, je pense... Ce qui est vraiment intéressant, c'est que mes pâtissiers puissent amener aussi un vrai regard sur notre travail et de pas être le seul décisionnaire. Et ce gâteau nantais, c'est dans le même esprit que de l'Annécien. On est parti donc sur un gâteau d'une région. Un gâteau nantais, j'en avais déjà mangé, mais c'est vrai que ça faisait un petit moment. Et on a travaillé ce produit. En gros, c'est une crème d'amande. Donc on a une bonne amande bio.
Ah ouais.
On va mettre un petit zeste de citron dedans.
Ceux qui aiment la galette des rois vont être gâtés. Hein,
c'est vrai. Mais c'est différent. C'est différent qu'une galette. On va avoir la saveur, une belle saveur d'amande. Mmh. Mais l'idée en fait, c'est de cuire donc cet appareil à l'amande au four et sorti du four, on va l'imbiber comme un baba au rhum.
C'est bien imbibé, je vous le confirme.
Oui, mais c'est pas mal. Oui, mais on sent pas la morsure du rhum. Elle peut déranger. Le rhum peut déranger chez certains, notamment le fameux baba au rhum. Là, il est parfaitement intégré dans l'ensemble. C'est incroyable. Et quels sont ces copeaux blancs qui recouvrent ce gâteau?
Ce sont des amandes fraîches. Donc, on va sur le gâteau une fois qu'il est imbibé, on va mettre cette glace royale, donc mélange de sucre glace et de blanc d'œuf, avec du rhum bien sûr et un jus de citron. Et après, on va venir râper finement avec la râpe à truffe quelques amandes.
Vous avez les félicitations notamment de la technique.
Merci beaucoup.
Et la bande qui se régale. Ils touchent plus du tout la console. Ils ont les doigts gras. Mais ils se sont régalés. Il nous reste une poignée de secondes pour Jessica. Juste le temps de dire à nos auditeurs qu'il y a sur le site internet cerise, yaourt. Oui, toujours dans la logique de travailler des fruits de saison.
Tout à fait.
La cerise est à l'honneur dans votre cuisine.
C'est ça, exactement.
Et vous proposez cerise, yaourt.
Et je propose cerise, yaourt avec une râpée de réglisse.
et une compotée du coup de cerises avec des cerises rôties, du poivre, comme un petit peu de fleur de sel.
Ouais, bah, on va goûter ça, ça tombe bien, on a pas mal d'invités dans le public. Et bien, on va goûter ça juste après. On va avoir une jolie démonstration aussi d'un tiramisu 2.0 incroyable qu'il a pas eu le temps de monter en direct, Maxime Frédéric. Mais vous allez nous le faire là?
Ah, bien sûr, bien sûr.
Et bien, allez, c'est parti, vous mettez au travail. Dans un instant, pas d'invité politique chez Ali Badou pour cause d'élection européenne. C'est le philosophe Michel Serres qui sera l'invité de questions politiques juste après le flash. Et la semaine prochaine, le terroir francilien à l'honneur. À dimanche prochain si vous avez encore faim.